Aujourd'hui, on pique une pointe de conversation avec Jean-François Larouche de la firme Larouche Marketing Communication de Québec. Au menu, B2B, rebranding et développement des affaires. Bon podcast.
Salut Jean-François, ça va?
Ben oui, toi-même?
Ben oui, absolument.
Moi, j'ai une formation en design graphique à la base et j'ai travaillé immédiatement après mon cours dans une belle boîte qui était bien connue à Québec, qui s'appelait Claude Plante et Associés, peut-être une boîte que tu connais. Et puis j'ai eu la chance dans ces années-là d'aller passer un an à Paris, à l'Institut d'études politiques de Paris. À mon retour, après cette année-là, j'avais plus d'argent et il a fallu que je me trouve un emploi assez rapidement. Alors, ce que je savais faire, moi j'ai quand même certains talents au niveau de la créativité, du dessin et tout ça. Alors, j'ai postulé comme graphiste, mais c'est pas ça que j'ai eu comme emploi. J'ai eu un emploi comme chargé de projet dans une agence que tu connais bien, qui est Marketel, à Québec. À l'époque, il y avait un bureau à Québec.
Ah.
Je sais pas si tu étais dans ces années-là, toi, de ton côté.
Non.
J'ai fait quelques années là. Arrive la récession du début des années 90. Faire ma job, mais rapidement, j'ai trouvé un emploi dans une agence de publicité que tu connais probablement aussi, qui s'appelait à l'époque Blot Dupéré-Giguère, et j'ai travaillé là pour cette agence-là quelques années, où je faisais du développement des affaires. Cette agence-là, pour la petite histoire, est devenue LXP à un moment donné. En 92, je pars deux ans à Chicago. J'en vais travailler à Chicago pour une agence de publicité qui rayonnait dans le Midwest américain, si tu veux, une agence locale. C'est pas une agence d'un réseau. C'est vraiment une époque formidable pour moi pour me verser, si tu veux, là, dans le monde de la publicité américaine. Étant de Québec, évidemment, tout se fait en français. Alors, on arrive dans un monde en anglais, puis le monde américain. Chicago est une grosse ville aussi de publicité, avec des gros sièges sociaux d'agences et tout ça. Alors, c'était vraiment là, un coup de cœur pour moi, là, de tout le monde de la publicité américaine.
Mais tu avais de l'expérience en anglais, vu que tu avais passé un an à Paris.
Oui, ben exactement. Alors, c'est sûr que ce que je faisais... Normand, je faisais du développement des affaires pour cette agence-là, et ça a réussi. J'ai eu vraiment du succès là, sur deux, trois comptes, si tu veux, et je faisais de la charge de projet avec eux.
Le designer devenait tranquillement plus un vendeur.
J'ai été béni de pouvoir commencer ma carrière à pouvoir faire ce travail-là, c'est-à-dire faire du développement des affaires. Convaincre des gens de faire affaire avec moi, ça me sert encore aujourd'hui, 30 ans plus tard, et c'est ce qui fait que je suis encore en vie et que je fonctionne encore.
Je comprends.
Alors, je me suis parti en affaires littéralement dans mon sous-sol avec pas d'argent et j'ai commencé à solliciter certaines entreprises de la région de Québec. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment identifié un créneau intéressant qui est encore très fort ici à l'heure actuelle. C'est tout le volet business to business, autrement dit, d'offrir des services de communication auprès des entreprises, communément appelé le B2B. JF Larouche, agence de publicité. Moi, je suis directeur de création et c'est moi qui est responsable de faire tout le développement des affaires pour l'entreprise. Nous sommes 13 au moment où on se parle. Et avec la particularité suivante, c'est qu'on n'a aucun compte qui provient du gouvernement.
C'est rare à Québec, ça?
C'est très rare. Mais j'en suis très fier aussi. Moi, mon plaisir, c'est de travailler avec des entrepreneurs, des gens qui sont décisionnels, des gens qui connaissent la valeur de l'argent, de véritables entrepreneurs québécois là, qui ont vraiment là, des objectifs là, de mettre en marché des produits malgré une compétition très intense ou toutes les difficultés que ça peut apporter à l'échelle québécoise, nord-américaine et même mondiale.
Les clients sont-ils uniquement québécois?
Les clients, à l'heure actuelle, sont uniquement québécois. J'ai un client qui vient du Nouveau-Brunswick, un client assez important dans le domaine du bois. Mais pour l'instant, ma clientèle est québécoise.
Sauf que leurs besoins sont nationaux, internationaux, je présume?
Exactement, c'est ça. Alors évidemment, là, t'auras compris que tout mon passage à Chicago, à Toronto et tout ça, a fait en sorte qu'on a développé, avec toutes ces années-là, une expertise, une capacité à pouvoir communiquer tout de suite en anglais à travers le réseau que je me suis fait. C'est quand même un avantage important qu'on a à pouvoir bien offrir immédiatement une bonne stratégie, bien entendu, dans la langue. La langue anglaise.
Ce qui n'est pas courant à Québec, ça non plus, j'imagine?
Non, c'est pas très courant. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui se spécialisent là, dans le domaine business to business à Québec. Tu mentionnais tout à l'heure que tu en fais un peu de B2B au niveau des réseaux sociaux. Le B2B, c'est un secteur secteur qui n'est pas toujours facile.
Ben non.
C'est un secteur souvent où on a à comprendre des procédés, où on a à comprendre
des industries
qui sont complètement différents. Alors, ça devient des fois, on doit s'investir beaucoup dans la compréhension des marchés de notre clientèle et faire en sorte que l'on arrive avec les bonnes solutions aussi. Et souvent, je te dirais, à des budgets qui sont moindres aussi.
Souvent, c'est des entreprises qui n'ont pas forcément un véritable service marketing non plus. Tu parlais d'entrepreneurs tantôt.
Ouais.
C'est des gens qui se sont bâtis eux-mêmes, puis à un moment donné, sont confrontés avec le fait que, OK, ben là, c'est parce que si je veux continuer à grandir, je vais aller voir d'autres marchés, puis qu'à un moment donné, j'ai une histoire à raconter, puis c'est là que vous arrivez.
Exactement. Ce qui est vraiment intéressant aussi avec ce type de clientèle-là, ce sont des gens qui sont très fidèles aussi. Alors, c'est pas des gens qui changent à tous les deux mois, à tous les deux ans. Quand tu réussis à aller chercher la confiance de ce type de clients-là, ben je te dirais que c'est pour 10 ans, 15 ans, pratiquement 20 ans dans un cas.
Puis ce qui est intéressant aussi quand ces relations-là durent, c'est qu'à un moment donné, il y a une complicité qui s'établit, qui déborde largement l'espèce de relation client-fournisseur. Tu deviens un peu comme l'équipe externe, mais à l'interne, parce que tu connais le nom, tu finis par connaître l'ensemble du personnel.
Exactement. En fait, les entrepreneurs, quand on a des relations basées sur le long terme comme ça, eux nous perçoivent comme étant, on est un peu leur bras de communication. Autrement dit, ces entreprises-là, comme tu as bien identifié tout à l'heure, n'ont pas nécessairement les ressources, n'ont pas nécessairement le budget disponible pour pouvoir faire ce travail-là. Alors là, on arrive. On fait la planification stratégique avec eux. On fait leur plan marketing. On fait leur plan de communication. On fait aussi tout l'aspect créativité et on exécute par la suite.
Mm-hmm.
Ceci étant dit, la compétition est très forte. Il y a beaucoup de boîtes qui offrent des services à Québec, à Montréal, un peu partout.
Ouais.
Et souvent, le web devient un élément, qui va cristalliser la prise de décision d'une entreprise de faire affaire avec une entreprise ou telle autre entreprise. J'ai décidé de conserver ce type de service-là à l'interne, mais j'essaie de m'en détacher le plus possible pour faire un changement important que je vais t'expliquer dans 2 secondes, pour pouvoir me démarquer du marché et puis tout simplement aussi mettre en valeur toute notre expérience et toute l'expertise. Parce que tu fais pratique, comme toi, ça fait 30 ans que tu es dans le domaine, moi ça fait 20 ans que je suis en affaires, ça fait 30 ans moi aussi que je suis dans le domaine. À un moment donné, on accumule de l'expérience qui devient forte, qui a une valeur marchande sur le marché, qui devient intéressante pour nos clients. Alors donc, cette valeur marchande-là, c'est quoi? Ben c'est d'être capable de dire les vraies affaires, de comprendre rapidement la situation d'affaires d'un client, d'identifier de façon structurée ses besoins marketing pour pouvoir le soutenir au quotidien, lui et sa force de vente, de différentes façons. Donc, cette expérience-là, c'est ce que je veux monétiser, c'est ce que je veux mettre le plus possible en valeur, si tu veux, au lieu de tomber tout de suite dans les solutions. Est-ce que tu comprends plus ce que je veux dire?
Bon, ouais, plus stratégique qu'un bâtisseur de site puis imprimeur des clients.
À l'heure actuelle, ma clientèle m'aime beaucoup. Le développement des affaires est basé sur moi. Et je m'occupe aussi de tout le volet créatif. Et une des problématiques que j'ai identifiées, c'est que, dans le fond, le JF ici faisait en sorte que tout le monde s'attendait à ce que je sois présent à peu près tout le temps, soit en développement, en planification, soit en créativité, même jusqu'à dans certains suivis. Alors là, j'ai pris certaines décisions cette année de rebrander l'agence, d'avoir une plateforme différente au niveau de mon offre et de mon branding. Alors, autrement dit, je vais faire disparaître le JF, tout simplement ici, pour conserver uniquement la Rouche. J'enlève agence de publicité et le plus web, et ça va devenir ceci. Alors, ça va devenir la Rouche Marketing Communication. Avec la particularité suivante, c'est que j'ai développé, comme je viens de t'expliquer, une très bonne expertise au niveau business to business. Alors, je vais mettre en place une plateforme spécifique au niveau B2B, autrement dit, avoir un langage, parler des préoccupations, présenter des case studies, traiter de différents sujets reliés au B2B. Je vais faire la même chose avec le B2C et je vais en avoir une troisième aussi. Je vais avoir ce qu'on va appeler Larouche Agro, marketing communication. Alors, trois plateformes, finalement, que je vais utiliser dans mon développement des affaires.
Ça veut-tu dire que Larouche ne fera jamais de retail ou de package food?
En ce moment, c'est les trois plateformes que je vais pousser. Il n'y a rien qui m'empêcherait d'avoir éventuellement Larouche Health dans le domaine pharmaceutique, éventuellement.
Ben oui, c'est ça.
Tu sais, autrement dit, l'idée ici, c'est vraiment de faire en sorte que, comment dire, donc il va y avoir des équipes spécialisées pour chacune de ces plateformes-là. Et ultimement, il va y avoir un directeur ou une directrice de création par offre. Et il va y avoir sa propre force de développement des affaires. Et on va pousser du contenu sur une base régulière pour traiter de sujets qui vont être préoccupants pour ma clientèle. Tout ça pour faire en sorte que le web devienne vraiment un outil qui va m'aider dans le référencement d'une clientèle de façon véritable.
Je comprends. Stratégie de contenu.
Exactement. Mais l'objectif aussi, c'est d'avoir une stratégie de contenu, mais c'est de faire en sorte que les gens puissent nous acheter aussi, puis de faire en sorte qu'ils comprennent que l'on a les capacités de pouvoir bien les servir.
Ah ben, en fait, en général, une stratégie de contenu, ça sert à ça.
Exactement.
Quoique, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui mettent du contenu pour du contenu, puis à un moment donné, tu cherches le rapport entre la compagnie qui pose le contenu et...
Ben, c'est pour ça, normalement, que je t'expliquais que c'est un contenu propriétaire. C'est pas un contenu là, éphémère qui va faire ou tout simplement un retweet ou « Ah, j'ai pris ça, on met ça là, on pousse... » Non, c'est vraiment notre stratégie. Nous autres, on sait comment ça marche. Voici comment on pense de tel aspect. Voici comment on devrait faire telle chose dans tel contexte. Parce que moi, tout ce que je fais là, dans ce moment-là aussi, c'est pour réussir à pouvoir donner une valeur à mon entreprise.
C'est sûr.
Pour pouvoir m'éloigner de juste moi. Alors ah oui. Là, il y a des moves que je fais là, en embauchant des personnes. C'est pour faire en sorte qu'éventuellement, ils sont capables de prendre le relais sans que je sois toujours présent.
Surtout dans des perspectives de business qui ont cru par elles-mêmes, par la personne. Tu sais, c'est comme tu le dis toi-même, c'est toi qui vas y chercher un à un.
Ouais.
Ça a l'avantage que ça crée des liens, ça a le désavantage que ça crée des liens. Parce que j'imagine tu vis la même problématique que plein d'autres agences vivent dans ce cas-là. C'est moi je veux pas te parler à toi, Junior, je veux parler à JF.
C'est ça, exactement. Alors, faut mettre les choses en perspective pour faire en sorte qu'on se dissocie un petit peu de cette réalité-là. Puis c'est pas une mince affaire parce que les jeunes que tu amènes que tu rentres dans la boîte et tout ça, ben donc il faut que eux ils comprennent ce que tu fais.
Ah oui, hein?
Aujourd'hui, là, ils sont
débrouillards.
Pardon?
Ils sont très débrouillards, allumés.
Ils sont allumés, et puis dans le fond, c'est un peu mon garçon qui m'a fait réaliser ça. Et il dit, papa, il faudrait probablement que tu envisages, comprends-tu, à passer à une autre vitesse. Alors, grosso modo, c'est pas mal ça. Là, vas-y, là, mon cher.
C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir été à l'écoute. Si le cœur vous en dit, poursuivons cette conversation sur Twitter via le hashtag GrenierMag et mon identifiant PizzaForAll. Pour écouter d'autres podcasts, rendez-vous sur le Grenier aux Nouvelles. Vous pouvez également me retrouver dans la section podcast d'iTunes sous Das Podcast. Ou bien, venez donc faire un petit tour sur mon site web, miron.co. À la prochaine!